Chapitre 12. L'un des fils avait été chargé de le prendre en filature dans Kaizizale. Suivre discrètement quelqu'un dans une ruelle aussi étroite, bordée par une succession ininterrompue de masures et de ruines, eût été difficile par temps sec. Avec la boue, c'était impossible. Holmes prit la direction du nord en pataugeant dans la gadoue sans jamais se retourner, sûr que ce fils gardait un œil sur lui de loin pendant que les trois autres individus, et peut-être davantage à présent, remontait une ruelle parallèle. Quand Holmes s'arrêterait, Finn ne mettrait pas plus d'une minute à avertir ses complices. Culpeper et Murtrick tablaient sûrement sur le fait que, tenaillé par le manque, le drogué n'attendrait pas d'être retourné à son hôtel, mais chercherait un endroit discret où s'injecter l'héroïne qu'il venait d'acheter. Il devait aussi parier que M. Baskers le ferait avant de quitter le quartier malfamé de Southwest. Holmes ne comptait pas les décevoir. Il laissa la porte de l'hôtel abandonné entrouverte derrière lui. La tache géante sur le parquet du grand salon demeurait tout aussi déroutante qu'à son premier passage, et les parquets éventrés sur trois étages aussi impressionnants. La pluie froide de printemps continuait de tomber par le trou dans le toit, trois étages plus haut. L'hôtel a peut-être été frappé par une météorite ou une comète. Telle fut la pensée qui vint au plus grand esprit logique et déductif d'Angleterre. Holmes souffrait le martyr. Il avait épuisé ses réserves de morphine ce matin-là et la piqûre n'avait pas suffi à apaiser la douleur qui s'était intensifiée au cours de la semaine et qui continuait de le distraire malgré ses années d'entraînement à l'ignorer. Une blessure par balle non létale l'aurait moins affecté que cette souffrance qui s'emparait de tout son corps trop longtemps privé de son remède. Il monta lentement l'escalier, posant d'abord un pied léger sur chaque marche, avant de faire peser tout son poids. Le bois détrempé et pourri avait autrefois été robuste, aussi ne dut-il éviter que quelques marches. La rampe était intacte sur toute la longueur du long escalier en courbe, mais tant de barreaux manquaient qu'elle n'aurait pas supporté qu'on s'y adosse. Entre les premiers et deuxièmes étages, il n'y en avait quasiment plus. Au troisième, il s'engagea dans le couloir au papier peint décollé et ouvrit d'un coup d'épaule la porte de la chambre qu'il avait choisie. Voilà. Il n'y avait qu'environ 50 cm de parquet avant l'énorme cavité. Des lattes et des morceaux d'anciennes moquettes étaient encore visibles dans les interstices entre les solives. On ne pouvait contourner le cratère que par le côté droit dans cette pièce vide, et la bruine incessante éclairée par la faible lumière du soleil perçant les nuages gris donnait un aspect irréel et sinistre aux murs nus et aux vestiges de sol et de plafond. Holmes avait espéré qu'il y aurait assez de place contre le mur opposé à la porte pour qu'il puisse s'y tenir, et c'était le cas tout juste. 1,20 m de parquet penché le séparait du trou. Si Culpeper voulait le tuer, il n'aurait qu'à ouvrir la porte, viser et tirer, sa cible serait à 6 mètres de distance. Mais les chances que M. Baskers tombe en avant après avoir été touché par une balle d'un calibre 442 étaient de 100%. Et Holmes faisait le pari risqué que Culpeper et Murtrick, si c'était bien leur vrai nom, voudraient récupérer les flacons de morphine et d'héroïne après leur autre larcin. Holmes se colla contre le mur, face à la petite chute d'eau et au vide le séparant de la porte qu'il avait refermée derrière lui, puis se laissa glisser contre ce mur, en espérant que le sol penché supporterait son poids. Le parquet grinça pour protester, mais tint bon. Holmes sortit alors l'une des bouteilles et sa trousse en cuir contenant les seringues. En France, puis pendant la traversée, il s'était interrogé sur l'utilité de s'armer d'un pistolet. Il en avait eu un en Inde, mais la France était si paisible qu'il n'avait pas eu besoin d'une arme. Même à Montpellier, où il avait fréquenté des chimistes en pleine expérimentation pour se sevrer de la morphine en passant à cette nouvelle drogue plus sûre. À New York, lors de sa seule occasion de s'en procurer une, il avait été trop occupé à trouver des informations sur de possibles contacts à Washington. De toute façon, l'idée ne l'avait même pas effleuré à ce moment-là. Assis, les genoux écartés et le flacon posé contre une de ses chaussures pour l'empêcher de rouler vers le cratère, Holmes sortit le matériel dont il avait besoin et sourit. Dans les nombreuses aventures et affaires écrites par Watson, dont le public ignorait encore l'existence, il les conservait dans son ancienne sacoche sur une étagère de sa chambre, c'était presque toujours le médecin qui apportait un pistolet quand c'était nécessaire. À la vérité, malgré les centaines de leçons de tir données par son père et tant d'heures de pratique solitaire, Holmes détestait les armes à feu quelles qu'elles soient. Mais il sourit de nouveau au souvenir de Watson, qui décrivait toujours son arme seulement comme son vieux ou fidèle revolver de service. Son ami en avait assez appris sur l'écriture par Conan Doyle pour savoir que les détails ennuyaient les lecteurs. Holmes vivait et mourrait sans doute un jour pour les détails. La première fois que Watson s'était muni d'une arme pour l'une de leurs aventures, Le détective avait remarqué que ledit revolver de service était un Adams à 6 coups de calibre 450 à chargement par la culasse et au canon de 15,24 cm. Le modèle standard de l'armée britannique durant la Deuxième Guerre afghane où Watson avait reçu cette blessure par balle de Jezail à la mobilité suspecte. Le revolver du Dr. Watson n'était guère différent du Beaumont Adams glissé dans la ceinture de Culpeper. Il n'avait pas échappé à Holmes que le dandy portait des bretelles en plus d'une large ceinture. Culpeper était un homme prudent. Jusqu'à quel point, se demanda Holmes. Ils le sauraient tous bientôt. Les cinq hommes sont peut-être maintenant équipés d'armes à feu. Telle fut la dernière pensée de Holmes avant qu'il entende la porte de l'hôtel s'ouvrir, trois étages plus bas. Quoique non, Holmes était certain que M. J ne s'était pas joint à l'expédition, à sa grande déception. Il était sûrement allé faire un compte-rendu de la rencontre à ses supérieurs. Ce qui signifiait que Holmes devrait laisser la vie sauve à au moins un de ses quatre poursuivants. Mais pas forcément à Culpeper. Son matériel était posé devant lui sur la pochette en cuir. Il avait pré-rempli sa seringue d'eau salée et sorti la capsule d'une bouteille de root beer qu'il avait achetée plus tôt dans la matinée, après avoir loué la lanterne magique. Il avait jeté la bouteille et son contenu, une boisson immonde, la root beer. Il se demandait comment les Américains pouvaient en consommer 3 millions de bouteilles par an. Il remplit la capsule de sel d'héroïne et ajouta assez d'eau pour les dissoudre. D'une autre poche de sa pochette en cuir, il sortit la longueur de caoutchouc qu'il avait utilisée ce matin pour garrotter son bras. Il réitéra l'opération puis tapota les veines au creux de son coude avant de prendre dans la poche de son gilet l'objet sans doute le plus unique qu'il possédait. Un prototype de briquet que lui avait offert quelques mois avant sa disparition volontaire, un client satisfait du nom de Karl Auer von Welsbach. Le brevetage d'un alliage nommé Ferrocerium avait permis aux scientifiques de fabriquer un petit briquet simple et sûr comparé au gros et dangereux Doberheiner utilisé dans les décennies précédentes. Il tint la flamme bleue sous la capsule. Le briquet de Von Welsbach avait sauvé la vie de Holmes de nombreuses fois dans l'Himalaya. Ce jour-là, il lui demandait seulement de fonctionner rapidement pour pouvoir chauffer le mélange de cristaux d'héroïne et d'eau salée avant que les bruits de pas dans l'escalier n'atteignent son étage. Holmes prit la boulette de coton qu'il gardait dans la poche de sa chemise à côté des trois photographies et la laissa tomber dans la capsule. Le coton agit comme un filtre, retenant les inévitables morceaux d'héroïne non dissous qui auraient risqué de boucher la seringue ou de lui arrêter le cœur. Les pas avaient dépassé le palier du premier étage. Holmes leva la seringue pleine, la tapota, poussa à peine le piston pour s'assurer qu'il n'y avait pas de bulle d'air, puis se pencha pour en injecter le contenu dans sa veine. D'après ce qu'il percevait, quatre hommes, et non pas cinq, montaient vers le troisième étage et sans faire d'efforts de discrétion particuliers. Il ne paraissait guère s'inquiéter d'être entendu par le docile Baskers. Holmes voulait que l'héroïne ait le temps de faire effet. Il retira le garrot, vida et démonta la seringue et rangea les flacons, la capsule et le précieux briquet à leur place respective. L'héroïne atteignit son système presque instantanément. Une chaleur éclatante envahit son cœur, sa poitrine, son torse, ses membres et enfin son cerveau. Toute douleur disparut, surtout celle relative à la question de son existence ou de sa non-existence, puis lui vint la sensation de s'élever sur la crête d'une vague en formation. Les bruits de pas s'arrêtèrent derrière la porte de la pièce. Holmes entendit des murmures, il les ignora. S'élevant rapidement sur cette vague silencieuse, il put mieux voir et sentir sa propre vie. Il distingua les lacunes, les ellipses, les terribles intervalles entre les soi-disant enquêtes, ses soi-disant aventures, sa prétendue existence de célèbre détective privé, ses jours, ses semaines et parfois ses mois entre les affaires que Watson avait racontées fiévreusement ne constituaient pas la mémoire d'une vie. Ce n'était qu'esquisses grossières avec des visages à peine ébauchés, des arrière-plans vagues, des journées vides. Holmes se rappelait avoir fait grincer son archer sur son violon coûteux. Il se rappelait s'être injecté de la cocaïne, avoir passé de longs après-midi à dormir, à jouer avec son matériel de chimie comme un enfant, faisant bouillir et brûler des choses. Il se rappelait le fantôme de Madame Hudson qui apportait des plateaux dans le salon, les remportait. Parfois, une femme ayant les traits de Madame Hudson et s'exprimant comme elle dans la mémoire de Holmes était curieusement nommée Madame Turner dans les chroniques de Watson. Tout cela était maintenant flou, sans la moindre consistance ou le goût du réel. La porte gauchie s'ouvrit. Les filles entrèrent, presque sur la pointe des pieds, tels des personnages de bande dessinée de Comic Cuts, d'Alice Sloper's Half Holiday ou d'Illustrated Chips, les coupables lectures du Dr. Watson. Holmes les ignora. il n'avait plus le temps et il n'avait plus le choix. Il devait voir ce que la drogue allait lui permettre de voir avant de prêter attention à ceux qui voulaient le tuer. La conscience de Holmes s'était élargie jusqu'à ce qu'il se heurte aux barreaux horizontaux de sa cage. Les barreaux n'étaient pas solides. Des sections de différentes longueurs flottaient devant lui dans l'air gris. Non pas de l'air, plutôt un éther gélatineux, mais l'espace entre elles n'était pas assez large pour qu'il puisse y passer la tête ou les épaules. Il s'aperçut alors qu'il s'agissait de mots. Des mots géants, des mots séparés, tels des blocs d'imprimerie posés dans le vide gélatineux, mais ces mots et ces phrases énormes étaient écrits en miroir. Holmes agrippa les deux plus longs, le métal était si froid qu'il lui brûla les mains, et regarda entre les mots barreaux avec l'expression d'un démon ou d'un naufragé qui voit s'éloigner le premier navire passé depuis des années. Holmes vous regarde. Il voit les contours flous de la pièce ou de l'espace derrière vous. Il s'efforce de discerner vos visages.
« Il est défoncé !»
observa l'un des fines.
« Complètement drogué. Il est même plus là !»
renchérit l'autre fine.
« La ferme !»
les rabroua Meurtric. Les quatre hommes avaient franchi la porte. Les fines et Meurtric avaient avancé avec précaution par la droite, la gauche de Holmes. Culpepper était resté dans l'embrasure. Bretelles et ceinture se rappela Holmes à travers l'éclat, la terreur merveilleuse et intrépide de l'héroïne. Si Culpepper demeurait vraiment prudent pendant les 2 minutes suivantes, Monsieur Sherlock Holmes de Londres ne serait bientôt plus qu'un cadavre. Holmes avait rangé sa pochette en cuir et se tenait à genoux, comme s'il priait la bruine tombant à la verticale devant lui. Quelque part au-dessus du trou dans le toit, le soleil était devenu plus éclatant. L'eau qui tombait était faite d'écheveaux d'or liquide. Sa canne reposait contre le mur derrière lui, à droite. Ce serait très délicat de tenter de l'attraper, ça prendrait trop de temps. Les deux hommes qui s'approchaient le remarquèrent. Les yeux de Holmes ne convergeaient pas, mais il nota vaguement que Meurtric avait sorti son couteau Bowie de son étui. Culpepper avait pris le revolver à sa ceinture. Les fines brandissaient leur gourdin paléolithique. Puis Culpepper entra dans la pièce et referma la porte derrière lui. Une vieille habitude, sans doute, de rechercher un peu d'intimité pour un meurtre. C'était ce que Holmes avait espéré. À présent, les quatre hommes contournaient avec précaution le périmètre du trou dans le plancher, demeurant aussi près que possible du mur ouest de la pièce vide. Les fines n'arrêtaient pas de jeter des regards à la cavité avec ce qui ressemblait à de la terreur dans leurs petits yeux d'hommes des cavernes. Holmes décida que ce serait l'un des frères qui survivrait pour aller raconter les détails de la rencontre à Monsieur J et à ses supérieurs.
« Ne vous collez pas les uns aux autres !»
murmura Culpepper. Il suivit ses camarades à plusieurs pas de distance, puis s'arrêta.
« Le plancher ne résistera peut-être pas. On doit récupérer les flacons. »
Sans dire un mot, les trois autres laissèrent plus d'espace entre eux. Les fines épelèrent leur courte matraque à l'extrémité plantée de clous. Meurtric, son Bowie à la main, avançait en rentrant les épaules comme un habitué des combats au couteau. Culpepper tenait son revolver au bout du bras avec l'air du duelliste accompli anticipant une nouvelle victoire facile. Le Beaumont Adams était armé. Holmes n'avait pas tourné la tête pour observer leur approche finale. Il avait les yeux vides, comme si la drogue avait pris le contrôle de lui. Une goutte de sang perlait à l'intérieur de son bras gauche dénudé. Les fines attaquèrent, Meurtric les suivant de près. Holmes se détourna de ses assaillants, comme s'il cherchait à reculer vers le coin sans issue où le cratère atteignait le mur est. Mais au lieu d'un simple demi-tour, il fit une volte-face complète et se redressa, tenant sa canne à la main. Les fines poussèrent un unique cri primitif et brandirent leur matraque. Guidé par des décennies de pratique du single stick, Holmes porta 6 coups en 2 brèves secondes. 2 coups latéraux pour leur casser le bras droit, 2 coups verticaux pour les frapper sous la mâchoire et les faire tomber à genoux, suivi de 2 coups aussi fluides que violents vers le bas. L'un pour fracasser le crâne du plus gros des fines, l'autre plus retenu pour assommer le plus petit et le laisser semi-conscient. Meurtric avait commis l'erreur de regarder la brève explosion de violence et de sang, mais il reprit sa progression ramassée sur lui-même, faisant passer sa lame mortelle d'une main à l'autre. Il sauta par-dessus les corps des fines, l'un gisant sur le ventre un filet de sang coulant de ses oreilles, l'autre couché sur le dos gémissant et tenant à 2 mains sa tête ensanglantée. Holmes fit un pas en arrière, non pas parce qu'il redoutait le couteau de Meurtric ou parce qu'il avait besoin d'espace, mais pour lancer un message subliminal à Culpepper et l'inciter à rejoindre la mêlée. « Approche-toi !» Le dandy s'avança de 2 pas, mais demeura hors de portée de la canne. S'il avait levé son revolver, il attendait manifestement que Meurtric fasse son boulot.
« Les flacons d'héroïne »
cria-t-il à son complice puant.
« Les casse pas !»
Le couteau Bowie poursuivit son va-et-vient. Holmes maniait sa canne avec assez de dextérité pour l'atteindre et l'envoyer à l'autre bout de la pièce dans le quart de seconde où Murtrick le ferait passer d'une main à l'autre. Apparemment, le bonhomme était ambidextre, en plus d'être crasseux. Mais il voulait que le couteau se plante dans le sol à un endroit précis et ne disparaisse pas dans la chute d'eau dorée, ni ne reste accroché, inaccessible, sur un mur ou la porte de l'autre côté de la pièce. Le détective courait cependant plus de risques en attendant que Murtrick change la lame de main une dernière fois avant de se projeter en avant d'un seul beau mouvement de danseur. Par deux fois seulement, en Espagne et à Calcutta, Holmes avait vu ce mouvement exécuté avec brio. C'était le genre d'assaut ultra rapide qui laissait l'adversaire éventré, les boyaux à l'air, puis tombant par terre avec un ultime gargouillis qu'il avait juste le temps d'entendre avant d'agoniser. La longueur du couteau Bowie rendait cette éventration plus probable, mais son poids ralentissait l'assaut mortel de cette fraction de seconde nécessaire à Holmes. Sherlock arqua le corps en se tenant en équilibre sur les talons, si bien que la pointe du couteau n'emporta qu'un bouton de son gilet. Il abattit sa canne lestée de plomb sur l'énorme main droite de Murtrick avant de le frapper sur le côté de la tête pendant que le couteau allait se planter exactement à l'endroit désiré. Étourdi, Murtrick chancela dans le vide, à deux doigts de basculer. Holmes l'attrapa et le tira vers lui de sa main gauche que l'héroïne semblait rendre encore plus puissante, gardant sa canne dans la main droite entre eux. Il approcha le visage si près de celui de Murtrick qu'il parut sur le point de l'embrasser. Puis, se baissant, il utilisa le corps de la brute à demi-consciente comme bouclier et le poussa devant lui pour contourner le cratère. Les quatre détonations du Beaumont Adams 442 semblèrent atteindre la conscience de Holmes longtemps après les impacts. Une balle fit exploser l'arrière du crâne de Murtrick, une autre se logea dans sa colonne vertébrale, la troisième réduisit son épaule gauche à l'état de fragment d'eau et la dernière le traversa, passant entre le torse et le bras droit de Holmes. C'était un revolver à cinq coups, mais Holmes avait poussé le cadavre vers Culpepper si bien que le cinquième tir arracha seulement du plâtre mouillé du plafond. D'un coup de canne, il fit lâcher à Culpepper le revolver vide, attrapa le dandy et le tira vers l'endroit où il s'était injecté de l'héroïne, enjambant avec précaution les trois corps à terre. Le plancher pourri et penché ployait sous leur poids, mais Holmes avait besoin de se rapprocher du couteau planté dans l'une des lattes grinçantes. Poussant Culpepper vers le bord du trou, il le retint seulement par le col de sa veste. L'autre vacilla et gémit. Holmes sentit une soudaine odeur d'urine. Il lança sa canne à l'écart et sortit les trois photographies de la poche de sa chemise. Maintenant toujours Culpepper penché en arrière au-dessus du vide, il lui fourra la première photo devant les yeux, celle d'un moustachu corpulent aux yeux noirs.
« Vous le connaissez ? »
aboya-t-il.
« Vous l'avez déjà vu ? » ?»«
Non !»
La voix de baryton de Culpepper était réduite à un tremblotement de soprano. Regardez encore. J'ignore auquel des chefs des Southwest Toffs vous obéissez, Dillon, Meyer ou Shelton. Mais ça aurait été à leur quartier général ou à leur bureau. Ou alors vous avez peut-être vu votre chef dîner avec cet homme.
Je ne l'ai jamais vu!
Queena Culpepper. Chaque fois qu'il tentait de ramener son bras pour saisir Holmes, le détective le faisait pencher un peu plus au-dessus du néant. Culpepper renonça à essayer et laissa retomber ses mains et ses bras comme les ailes brisées d'un pigeon. Holmes rempocha la photo et sortit celle d'un jeune homme. Elle était prise de profil, lèvres fines, long nez droit, cheveux peignés en arrière, œil aussi clair que celui d'un reptile. L'image terrifiait Holmes, même dans l'état de détachement induit par l'héroïne. L'hésitation de Culpepper lui apprit ce qu'il voulait savoir.
« Parlez, tout de suite !»
Son bras et sa main gauche commençaient à fatiguer. Il avait failli lâcher Culpepper sans le vouloir une seconde plus tôt. Il n'allait pas tenir longtemps, mais il ne pouvait pas changer de main. Pas encore.
Parlez immédiatement! Je crois que je l'ai vu. Peut-être une fois. Je vous en prie, ne lâchez pas!
Holmes le tira à peine vers lui.
Il y a deux ans,
reprit Culpepper.
Peut-être trois! Au bureau de Shelton, dans Pennsylvania Avenue.
Quel était son nom?
Je l'ai seulement vu de loin, je vous le jure. S'il savait quoi que ce soit sur lui, je vous le dirais. Je le jure devant Dieu. Je vous en supplie, ne me poussez pas. Je vous en supplie, ne me lâchez pas, je vais changer de vie, je le jure, devant Jésus-Christ.
Et lui? Demanda Holmes en lui montrant le troisième cliché. L'homme avait le crâne dégarni, les joues creuses et une pâleur cadavérique. Mais ses traits émaciés ne suscitaient aucune sympathie chez celui qui le regardait. C'était le visage d'un prédateur, pas celui d'une victime, ni celui d'une proie. On remarquait d'abord le renflement blanc d'un gigantesque front, surplombant des yeux enfoncés, agrandi par le pince-nez d'un autre âge. L'impression d'être face à un intellectuel à cause du front haut, des lunettes, du col à l'ancienne mode, de la lavalière et de la redingote, était immédiatement contredite par la saillie du menton puissant, d'où partaient de profondes rides jusqu'aux pommettes saillantes et au nez aquilin. Les épaules voûtées, se dressant-elles les plumes noires d'un vautour de part et d'autre du visage blême, accentuaient la ressemblance avec un rapace.
« Jamais vu !»
halta Culpepper.
« Je glisse ! Je glisse ! Oh, Seigneur !»«
Peut-être avez-vous entendu son nom ?» dit Holmes, sentant la force déserter sa main qui tenait le col. « Moriarty, professeur James Moriarty !»«
Non !» « Jamais !»
s'écria Culpepper, et Holmes vit dans ses yeux qu'il mentait. « Parfait !» Le détective jeta un bref regard au fine survivant, toujours avachi contre un mur et tenant sa tête ensanglantée. Il ne gémissait plus et avait tout vu et entendu, mais il n'avait plus la force de se battre. Le sang de sa blessure au crâne avait taché ses doigts, ses poignets et ses manches. Holmes rangea les photos et ramena Culpepper à l'écart du bord. Il ne pensait pas en obtenir plus. Qu'avait-il appris? Que Lucan s'était peut-être trouvé à Washington 2 ou 3 ans plus tôt, que Culpepper avait bien entendu parler du professeur Moriarty, mais qu'il ne l'avait certainement jamais vu. Holmes relâcha sa prise et regarda par terre. La tête du fin mort baignait dans une mare de sang. Le corps de meurtrique gisait sur les jambes de ce dernier, et son visage explosé par la balle n'avait plus rien d'humain. Le fin survivant avait réussi à s'écarter de son frère et de son chef. Ses yeux en sang, écarquillés comme des soucoupes, observaient Holmes derrière ses doigts carmin. Tout ça pour apprendre que Lucan est peut-être passé à Washington où il a été en contact avec les Toths et que cette organisation criminelle connaît l'existence de Moriarty. Il fut assailli par une tristesse soudaine rendue presque douloureuse par la dissipation des premiers effets libératoires de l'héroïne. Au lieu de toute cette mise en scène, il aurait dû se contenter d'assommer Monsieur J et de le kidnapper pour l'interroger. Il était sûrement le seul de ceux que Holmes avait rencontrés cet après-midi à savoir s'ils avaient été en affaire avec Lucan. Holmes soupira et se détourna comme dans l'intention de ramasser sa canne. Le couteau Bowie était planté à quelques centimètres seulement de la botte droite de Culpepper. Le gros homme dégagea la lame avec un grognement et se pencha en avant pour frapper. Holmes s'écarta, sa tête touchant presque le mur moisi, son coude droit par terre, et il détendit d'un coup sa jambe gauche, pied fléchi comme il l'avait appris dans sa jeunesse, libérant une énergie apte à défoncer une porte verrouillée. Culpepper fut projeté en arrière, si bien que Holmes aperçut les semelles de ses chaussures, tels 2 points d'exclamation en suspension dans l'air. Puis l'homme poussa un cri et parut emporté par la bruine au milieu du trou de 3 mètres de large. Holmes prit le temps de ramasser le revolver Beaumont Adams, l'essuya avec son mouchoir, le démonta et lança les pièces dans la cavité. Le fin survivant tenta de reculer, de faire corps avec le mur au moment où Holmes passa devant lui en balançant avec nonchalance sa lourde canne à son côté. Le détective pouvait seulement espérer que le frère fût assez intelligent et pas trop commotionné pour rapporter fidèlement ce qui venait de se passer à Monsieur J et à ses autres patrons. Holmes avait dit plus d'une fois au docteur Watson que quand il prendrait sa retraite, il écrirait son opus, tout l'art du travail de détective, mais le livre qu'il devrait vraiment rédiger s'intitulait « L'art de commettre un meurtre sans se faire prendre ». La règle numéro 8 serait « Ne jamais rien emporter qui appartienne à la victime ». Holmes referma la porte derrière lui, laissant un fin encore tremblant de peur à l'idée qu'il revienne terminer son travail. Il s'engagea avec précaution dans l'escalier, dont les marches avaient supporté plus de poids en cette journée de mars qu'elle n'en avait l'habitude. Dans le grand salon donnant sur le lobby, une 2e tache large était apparue à côté de la première. Culpepper avait réussi, Dieu sait comment, à atterrir sur la tête. Son Homburg en avait subi les conséquences et la base pointue de sa colonne vertébrale avait transpercé la peau de son derrière. Holmes retourna le corps, veillant à ne pas tacher ses propres vêtements d'ouvrier américain et récupéra ses $150. Il en aurait besoin dans les semaines suivantes. C'était le samedi 25 mars. Holmes s'attendait à ce que Henry James retrouve bientôt ses esprits et retourne en Angleterre ou en France, mais lui-même devrait peut-être rester en Amérique au moins jusqu'à l'inauguration de l'exposition universelle. Le président Cleveland devait lancer les festivités le 1er mai, avec grandes eaux, salves de canons des cuirassés, chœur chantant l'Alléluia de Handel. Holmes devrait donc supporter de rester en Amérique tout ce temps, à moins que des événements dont il serait à l'origine, comme la rencontre de cet après-midi, ou un télégramme de son frère aîné ne le dégage de ses pénibles obligations. C'est là un dénouement qu'on doit souhaiter avec ferveur, songea-t-il, se remémorant cette glorieuse soirée de 1874, ou sous un autre nom. Il avait remplacé au pied levé Henry Irving, étoile montante du théâtre et directeur de la troupe, non pas dans le rôle de Rosencrantz, ni du fidèle Horatio, oui monseigneur, non monseigneur, pendant 2 heures et demie douloureuses, mais bien dans celui de Hamlet. Il avait reçu une véritable ovation. La critique dans le Times avait été élogieuse. Irving l'avait congédié dès le lendemain. Holmes quitta le vieil hôtel à l'odeur de moisi et de sang et remonta Cassay's Alley jusqu'à ce que le sol de terre laisse place à des pavés. Il retrouva sa mallette avec ses autres vêtements, là où il les avait laissés, dans la maison abandonnée de Foggy Bottom, enfila son costume en tweed trop épais de gentleman norvégien et rangea soigneusement ses frusques américaines. Il lui fallut 1 minute pour fixer la tête de chien en argent et la coque noire sur sa canne en bois qu'il avait nettoyée en chemin. Holmes regarda son reflet dans une vitre. Il avait vérifié que ses mains étaient propres, mais il aperçut 3 rosettes de sang alignées comme des flocons de neige écarlate le long de sa pommette gauche. Humidifiant son mouchoir, il retira les taches, puis jeta le morceau d'étoffe non monogrammé. Quittant la maison avec l'assurance d'un propriétaire absent après une inspection, il retraversa Foggy Bottom pour retourner dans les élégantes rues bordées de maisons de style fédéral, plus près du centre-ville et de la résidence présidentielle. Il avait retrouvé la démarche ample et assurée du célèbre explorateur, et sa canne raffinée claquait sur des briques parfaitement régulières. Holmes eut tout le temps nécessaire pour prendre un bain et se changer avant le thé. Lorsqu'il rejoignit les autres dans le petit salon, il trouva à Henry James un air particulièrement maussade, comme s'il avait passé la journée à broyer du noir. Il n'avait pourtant pas révélé l'identité de Holmes à John ou Clara Hay. L'accueil joyeux de leurs hôtes et leur conversation facile et animée pendant le thé le lui prouvèrent.
« Notre paisible ville vous a-t-elle paru aussi excitante que vos explorations en Asie ?»
demanda Clara Hay. « Très stimulante à sa façon », répondit Jan Sigurdsson avec son accent norvégien léger, quoique perceptible. Quelques heures plus tard, ils dînèrent de roast beef, une spécialité du cuisinier des Hay, semblait-il, ou un choix en l'honneur de Henry James, apparemment devenu plus anglais qu'américain à leurs yeux. Holmes prit une tranche très saignante.